Mercredi 21 juin 2017, il est 18h au studio Kalangou, le point sur l'actualité nationale en français. Bonsoir à tous, voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Les 5 arrondissements communaux de Niamey sont en session ordinaire depuis hier. Au programme, questions budgétaires et conséquences des intempéries, focus ce soir sur la situation à la mairie du 2e arrondissement déficitaire cette année. Aujourd'hui, 21 juin 2017, jour correspondant à la 27e nuit de Ramadan, c'est la nuit du destin, nous en parlons dans ce journal. La gendarmerie de Maradi procède ces jours-ci à l'interpellation d'enseignants soupçonnés de détenir des faux diplômes. Les dossiers de 46 enseignants viennent d'être transmis au procureur de la République près du tribunal de grande instance. Détail tout de suite. Hier, mardi 20 juin, a été célébrée la Journée internationale des réfugiés. Nous faisons le point sur la situation des réfugiés qui vivent sur le sol nigérien. C'est la page magazine de ce soir. Messieurs, dames, bienvenue. Les 5 arrondissements communaux sont en session ordinaire depuis hier. Pendant les 4 jours qui vont durer les rencontres, les conseillers communaux se pencheront sur l'analyse des budgets de fonctionnement des arrondissements et les mesures pour faire face à la saison des pluies. Notre équipe s'est intéressée aux travaux du 2e arrondissement où le budget est déficitaire cette année. Écoutons les explications du maire Garba Seibou au micro de Habibou Garba.
Vous savez, notre arrondissement a une dotation globale de 383 915 207 francs. Sous ce montant, on n'a reçu que 32 millions 600 et quelques. Donc, c'est ça qui fait les 8,5%. C'est dû à nos moyens de la ville même, à nos moyens de la ville. On a un comité de trésorerie qui, chaque semaine, discute. Je ne condamne personne. Vraiment, c'est qu'on n'a pas les moyens pour travailler.
Alors, quels sont les travaux que vous allez prioriser?
Dans les 32, déjà, le conseil même prend une grande partie. Que le conseil à l'électricité. 6 mois de l'électricité, vous voyez ce que ça fait pour un arrondissement. Et vous-même, vous êtes en train de constater que dans les arrondissements, ça ne va pas.
Propos recueillis par Habibou Garba. Les fortes précipitations qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale ont débordé les quelques caniveaux de la ville. Des inondations dans plusieurs quartiers de Niamey, d'énormes dégâts ont été enregistrés et même des pertes en vie humaine et des blessés. Selon Cissé Mahamadou, directeur régional des domaines et de l'habitat, certains sinistrés ont bénéficié d'une assistance. Pour ce qui est du volet prévention, les autorités municipales de la région de Niamey s'attellent au curage des caniveaux avec les moyens de bord. Cissé Mahamadou, directeur régional des domaines de l'habitat.
La région a pris quand même des dispositions pour reloger provisoirement les sinistrés au niveau des écoles. Et pour ce faire, l'État a quand même mis des moyens conséquents à la disposition du gouvernorat, des kits ménages, dont la distribution a commencé depuis le samedi. Pour le moment, nous avons dépassé la phase prévention, parce que déjà l'eau est là. Ce qu'il faut peut-être envisager, c'est de demander aux personnes qui continuent encore de rester dans les zones inondables de quitter provisoirement ces lieux-là. Les caniveaux que nous avons à Niamey, la mairie n'arrive pas aujourd'hui par manque de moyens à faire face à ces curages-là. Et les populations, malheureusement, continuent de mettre n'importe quoi dans ces caniveaux. Donc il faut nécessairement que les mentalités des gens changent, que les gens payent leur taxe de voirie, parce que c'est avec ça que la mairie arrive à travailler. Il y a beaucoup de quartiers quand même qui ne sont pas dotés d'infrastructures d'évacuation des eaux. Mais le programme de gestion des risques de catastrophe, le PGR-CDU, a programmé le financement de 80 km de collecteurs au niveau de la ville de Niamey. Et cela concerne tous les arrondissements communaux. Avec cela, quand même, on trouvera un début de solution.
Aujourd'hui, 21 juin 2017, jour correspondant à la 27e nuit de Ramadan, nuit durant laquelle est habituellement célébrée Laylatul Qadri ou nuit du destin. Il en est ainsi chaque année pendant la 3e décade du mois de Ramadan. Quelle est l'origine et l'importance de cette nuit? Réponse avec Abdul Fatahou Mahmoudou, prédicateur au micro de Soumana Amadou.
Le messager sallallahu alayhi wa sallam, l'on lui a présenté les œuvres de la communauté passée. Il était très émerveillé. Et c'est une communauté à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une espérance de vie beaucoup plus longue que la nôtre. Et il s'est dit que nous, avec notre espérance de vie très courte, comment peut-on rattraper ces gens? Alors, subhanahu wa ta'ala lui a dit, « Oh toi, mon messager, je vais t'accorder une nuit qui, si ta communauté fait du bien dedans, ça lui vaut plus de 1000 mois d'adoration. » L'essentiel, c'est de pouvoir faire quelque chose. Et il n'est pas dit de prendre toute la nuit pour ne pas dormir. C'est la nuit du destin. Le destin de tout un chacun est tracé. Mais les anges qui doivent exécuter l'ordre de Dieu par rapport au destin de tout un chacun, c'est au cours de cette nuit qu'on leur donne leur feuille de mission.
C'était le prédicateur Abdoul Fattah Mahmoudou. La France et les États-Unis sont finalement tombés d'accord sur le projet de résolution concernant la force commune du G5 Sahel. Pour en arriver là, ce texte a subi des modifications. Entre autres grands points, il ne s'agit plus d'autoriser la force antiterroriste du G5 Sahel, mais de saluer son déploiement. Les États-Unis ont fait retirer du texte le caractère antiterroriste de la force pour simplement considérer qu'elle doit ramener la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Concernant le financement de cette force, la question a été renvoyée à l'organisation d'une conférence des donateurs. C'est en principe aujourd'hui que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter cette résolution. La gendarmerie de Maradi procède ces jours-ci à l'interpellation d'enseignants soupçonnés de détenir des faux diplômes. Le gouverneur de Maradi, Oumarou Zakari, a annoncé la semaine dernière avoir transmis au procureur de la République près du tribunal de grande instance le dossier de 46 enseignants, tous contractuels. Mahamane Mani, coordonnateur de la Fédération unitaire des syndicats de l'enseignement du Niger, FUSEN, section régionale, commande ces arrestations au micro de Mohamed Mamane.
Dans la région de Maradi, il y a 46 enseignants détenteurs de faux diplômes, tels vérifiés la semaine passée, et que parmi eux, en fonction des contrôles, rien qu'ici dans le camp pénal, il y a à peu près 5 personnes qui sont là incarcérées. Et dans le chef-lieu du département aussi, c'est le même cas. Tous ceux qui sont en prison présentement où je vous parle, c'est suite à des contrôles efficaces et c'est constaté que ces gens-là détiennent des faux diplômes et ils le reconnaissent et voilà pourquoi ils sont incarcérés. Et vous savez, le syndicat ne peut pas défendre le faux. C'est pas de gaieté de cœur que nous observons impuissamment ses camarades, mais nous disons que, Inch'Allah, dès que la lumière soit faite, chacun va regagner librement sa place. Mais tous ceux qui savent qu'ils ont rentré dans l'enseignement par cette voie, je vous dis que vraiment la situation est malheureuse et ils ont intérêt à renoncer.
Propos recueillis par Mohamed Mamane. Aujourd'hui, 21 juin, c'est la journée mondiale de la musique. Au Niger, l'événement a été reporté de quelques jours à cause du mois de Ramadan. Mais le programme est déjà établi. Gungu Maman Dantani s'est entretenu ce matin par téléphone avec Black Muller, un des organisateurs.
Nous avons fait un travail à la demande du ministre pour reporter les activités parce que, bon, une journée, c'est vrai que l'idéal aurait voulu qu'on les fasse les jours si, comme on le dit, entre groupes, mais nous avons convenu d'organiser des manifestations une semaine après la fête et ça nous permettra d'honorer et de célébrer à l'instar du monde. Donc, après la fête, nous allons nous retrouver, vous et nous, dans la convivialité pour célébrer la fête de la nuit. À l'occasion de la journée, pourquoi pas ne pas faire des conférences, une structure des artistes, par exemple, peut faire des formations en amont comme en aval. C'est toujours pour montrer que c'est une journée particulière, l'idéal, c'est de manifester sa joie et de la partager avec le public, les fans, et montrer que, au même titre que certaines composantes sociales, nous aussi, nous avons notre journée, la journée de la musique.
Propos recueillis par Gungu Maman Dantani. Le Niger participera au championnat du monde de taekwondo qui se tiendra du 24 au 30 juin à Moujou en Corée du Sud. La délégation nigérienne composée de plusieurs athlètes conduite par Soumana Sanda, président de la Fédération nigérienne de taekwondo, a quitté Niamey ce matin. Selon Maître Hamza Sidikou, secrétaire chargé à la communication de la Fédération nigérienne de taekwondo, c'est la plus grande compétition de ce sport au niveau mondial. Il s'exprime au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
Il s'agit du championnat du monde de taekwondo. C'est la plus grande compétition de niveau mondial en taekwondo. Ce championnat regroupe 971 athlètes de 183 pays différents. Là, il y a 16 catégories dans ce championnat, 8 catégories féminine et 8 catégories masculines, contrairement aux Jeux Olympiques où c'est 4 catégories masculines et 4 catégories féminines. Donc c'est vraiment un championnat très compliqué. Le Niger participe avec 6 combattants des différentes catégories, dont une fille. Parmi les 6 combattants, dont figure Alphaga effectivement à plus de 87 kg, nous avons à moins de 54 kg, Mahamadou Maharana Amadou Tijani, Hamza Suleiman à moins de 58 kg. Nous avons à moins de 68 kg, Ismaël Garba Yakuba. Nous avons Jibo Kadiri. Nous avons Tekiet Ben Youssef, la fille qui tire de la catégorie de moins de 62 kg.
Propos recueillis par Tandam Fouda Ahmed. À noter que parallèlement à ce championnat, l'Assemblée générale élective de la Fédération mondiale de taekwondo va se tenir. El Hadj Idé Issaka, président d'honneur de la Fédération et président du Comité olympique et sportif du Niger, COSNI, sera candidat au Niger à cette Assemblée générale élective.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La partie magazine de cette édition à présent. Hier mardi 20 juin a été célébrée la journée internationale des réfugiés. Occasion pour nous de faire le point sur la situation des réfugiés qui vivent sur le sol nigérien. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, à ce jour, l'on compte à environ 200 000 réfugiés, dont 140 000 Nigériens et 60 000 Maliens. Plus de détails avec Omarou Aboubakar, administrateur national protection enfants au HCR. Il est au micro d'Adama Dawaki.
Selon la définition donc de la Convention de Genève, est réfugié toute personne qui se trouve hors de son pays d'origine et ne peut pas y retourner parce qu'elle craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou tout autre. Ça veut dire qu'il se sent persécuté dans son pays d'origine et qu'il ne peut pas rester et que son pays n'est pas à mesure de lui assurer toute la protection nécessaire. Il est obligé de traverser la frontière de son pays pour se trouver dans un autre pays et demander l'asile.
À ce jour, combien de réfugiés compte le Niger?
Alors actuellement, ici au niveau de Niamey, nous avons environ 3754 réfugiés.
Répartis dans combien de camps?
Ici à Niamey, la particularité c'est qu'il n'y a pas de camp. Les réfugiés viennent, ils se sentent libres de s'installer où ils veulent. Comme vous le constatez ici, ils sont souvent logés à la périphérie de la ville, dans des parcelles abandonnées ou autre chose. Pour ceux qui choisissent d'aller vers les camps, ça vous retrouvez ces camps. Dans la région de Tiraberi, nous avons le camp de Mangaïzé, le camp de Abala et le camp de Tabaribari. Au niveau de la région de Tawa, nous avons donc la zone d'accueil des réfugiés. Avant, il y avait deux, il y avait Tazalit et puis Intekan. Mais maintenant, la ZAR de Tazalit a été fermée du fait des problèmes que vous connaissez, un moment où, suite à l'attaque qui a eu lieu là-bas. Donc maintenant, nous avons juste la ZAR de Intekan. La particularité, la ZAR et le camp, c'est qu'au niveau de la ZAR, c'est beaucoup plus spécifique pour des réfugiés nomades, donc qui ont beaucoup plus de bétail et ils ont l'espace pour faire paître les animaux. C'est différent donc de la situation du camp.
Et comment le HCR prend ses réfugiés en compte?
La prise en charge de ces réfugiés dépend maintenant de la situation où se trouvent les réfugiés, que ce soit en milieu urbain ou au niveau des camps. Comme vous savez, en milieu urbain, ici, il n'y a pas d'assistance donnée, genre comme ce qui se passe dans les camps, les rations alimentaires et autres. Mais ici, en milieu urbain, ce qui est beaucoup plus préconisé, c'est des assistances au cas par cas. Ça veut dire que tout réfugié peut venir faire une demande au niveau du guichet unique avec le partenaire handicap international. Il y a des investigations qui sont menées par rapport donc aux propos ou aux demandes adressées par cette personne. Des VAD, donc des visites à domicile, sont conduites pour vérifier toutes ces informations. Maintenant, toutes ces informations collectées sont soumises au niveau d'un panel qui se réunit pour statuer par rapport à quelle assistance donnée. Et cette assistance est donnée, nous avons suivant une grille de vulnérabilité qui a été établie, conçue, avec la participation de ces réfugiés-là, puisqu'on leur a demandé de selon eux, qui est vulnérable à tel degré.
Voilà, c'est tout pour ce soir. La partie technique a été assurée par Hassan Taoué. Réalisation Alassane Kouzé Mamadou. Place à présent au forum du studio Kalangou.